Bonsoir. La planète bleue sur écran géant pour mobiliser ses soutiens. Jean-Luc Mélenchon a innové cet après-midi à Nantes avec un meeting immersif et olfactif sur le thème de l'espace, de l'environnement et des inégalités. Reportage dans ce journal. On le surnommait IBK. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, chassé du pouvoir en 2020 par les militaires, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 76 ans. En France, les députés s'apprêtent à voter la version définitive de la loi sur le pass vaccinal. L'Angleterre, elle, commence à envisager de lever les restrictions anti-Covid. Nous irons à Londres. L'Open d'Australie sans Djokovic, privé de visa. Le joueur serbe et numéro 1 du tennis mondial a repris l'avion. Et puis un ciel contrasté, c'est ce qui nous attend demain, nous dira Jean-Michel Golinski de Météo France.
France Inter.
Vers l'infini et au-delà, sur fond d'images de la planète bleue, puis de vagues se fracassant sur des rochers, Jean-Luc Mélenchon a tenu cet après-midi à Nantes un meeting d'un nouveau genre. Pour sa troisième candidature à la présidentielle, le candidat de la France insoumise innove. On se souvient de ses meetings en hologramme en 2017. Cette fois pour parler numérique et environnement, Jean-Luc Mélenchon avait promis un meeting immersif et olfactif. Alors gadget, ouvrez plus. Réponse avec le reportage de Noé Miller.
En un mouvement, les 3000 spectateurs sont transportés dans les trois grands thèmes de ce meeting, l'espace, le numérique, puis la mer.
Maintenant, le plus beau, la profondeur, celle qui occupe 70% de la planète, la mer d'Alassa.
Grâce aux écrans géants, des vagues entourent alors le candidat et ses militants. Jean-Luc Mélenchon espérait peut-être encore plus.
À cause de moi, comme il y a de la lumière, c'est un peu moins immersif que si vous étiez dans le noir. Hein, mais quand même, ça l'est bien.
Et l'aspect olfactif et subliminal, constate par exemple Elisabeth, l'une des spectatrices.
Oui, avec les masques, on n'a pas toujours bien senti les odeurs.
Mais qu'importe, les militants sont conquis sur la forme comme sur le fond.
Novateur, et puis avec ça permettait de structurer vraiment le discours et en trois parties, avec les trois dimensions. Et vraiment, c'était très chouette parce qu'on n'a jamais vu un homme politique faire ça.
Et déjà, le candidat leur donne rendez-vous pour une autre prouesse technique, le retour des hologrammes le 5 avril dans 7 régions à la fois.
Un reportage en immersion de Noé Miller et on revient dans le journal de 19h sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon, dont la sortie du nucléaire, l'interdiction des pesticides ou encore la revalorisation du salaire minimum. C'est la dernière séance à l'Assemblée nationale sur le pass vaccinal, le texte qui a mobilisé le Parlement pendant deux semaines, va être adopté en dernière lecture. Et le gouvernement espère une entrée en vigueur rapide autour du 20 janvier. Il faudra désormais être vacciné pour obtenir un pass. Un test négatif ne suffira plus. La mesure ne s'appliquera qu'à partir de 16 ans. Les 12-15 ans garderont l'actuel pass sanitaire. En Autriche, la vaccination contre le Covid sera obligatoire à partir du mois de février. C'est le premier pays d'Europe à prendre cette décision. Pour autant, sur le plan sanitaire, les signaux sont plutôt encourageant. Le professeur Alain Fischer prévoit une accalmie de la situation épidémique au mois de mars. Même constat en Angleterre. Le pays a globalement 15 jours d'avance sur la France en termes d'épidémie. Le nombre de cas positifs baisse et le gouvernement pourrait envisager la levée des restrictions liées au Covid à la fin du mois de janvier. Correspondance à Londres de Laura Calmus.
Le nombre d'hospitalisations a baissé de 5% cette semaine à Londres et pour les experts, c'est le signe que la capitale a atteint son pic et que le reste du pays va très certainement suivre la même trajectoire. Car Londres a de l'avance par rapport au reste du Royaume-Uni qui lui-même a de l'avance par rapport à la France. Une baisse importante du nombre de cas positifs également, près de 44% en une semaine, mais avec la pénurie de tests dans le pays, les chiffres sont à prendre avec précaution. Ce matin, sur la chaîne Sky News, l'un des membres du gouvernement de Boris Johnson, Oliver Dowden, avait un discours plutôt optimiste.
La phase la plus difficile d'Omicron est derrière nous. Je suis conscient du fardeau que ces restrictions imposent à l'hôtellerie, à la restauration, à l'économie, aux écoles, etc. Les signes sont encourageants, mais clairement, nous attendons de voir les données avant de prendre cette décision finale.
Une décision finale qui sera prise le 26 janvier, date à laquelle les mesures mises en place doivent être réexaminées. Ce sera peut-être la fin du télétravail et du pass sanitaire, actuellement obligatoire dans les boîtes de nuit et les gros événements sportifs. Londres, Laura Calmus, France Inter.
L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est éteint ce dimanche à Bamako à l'âge de 76 ans. Celui qu'on surnommait IBK avait dirigé le Mali de 2013 à 2020 jusqu'au coup d'état militaire. On revient avec vous Franck Madvon sur le parcours de cet homme dont l'histoire se confond avec celle de son pays.
Retour d'abord Corinne en septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu ce jour-là président du Mali. Il incarne alors les espoirs de la nation. Les troupes françaises sont intervenues quelques mois plus tôt dans le pays pour repousser une offensive djihadiste dans le nord qui menaçait alors la capitale Bamako. Mais Ibeka, comme tout le monde l'appelle en effet, ne parviendra jamais à rétablir la sécurité. L'État laisse le contrôle aux islamistes dans certaines régions. Il est souvent inexistant, presque partout corrompu. Keïta est réélu en 2018, mais il est de plus en plus contesté. À l'été 2020, des manifestations aboutissent à un coup d'État militaire et à la démission d'Ibeka, qui tient alors son dernier discours de président.
Je voudrais vous dire ma décision de quitter mes fonctions avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement.
Ibrahim Boubacar Keïta disparaît lors de la vie publique, il connaît des alertes de santé. C'est une figure majeure de la vie politique malienne des 30 dernières années qui s'éteint aujourd'hui. Un lettré, ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Ibeka disparaît alors qu'une nouvelle période de crise s'est ouverte au Mali. La junte militaire qu'il avait écartée a récemment trahi sa promesse de rendre rapidement le pouvoir aux civils.
Merci Franck Matvon de la rédaction internationale de Radio France. Faut-il rapatrier les enfants français retenus en Syrie? Oui, et rapidement, estime Boris Cyrulnik. Le neuropsychiatre interpelle Emmanuel Macron dans les colonnes du journal du dimanche. Ces enfants français de djihadistes sont retenus dans des camps gérés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, certains avec leur mère. Des avocats, des parlementaires ou encore la Commission nationale consultative des droits humains exhortent les autorités françaises à les rapatrier. Avec Boris Cyrulnik s'ajoute donc la voix d'un homme engagé pour le bien-être des enfants. Et s'il demande leur rapatriement, c'est au nom de leur santé mentale et aussi de notre sécurité. Elia Bergel.
Environ 80 Françaises et 200 enfants sont aujourd'hui retenus dans les camps kurdes du nord-est syrien. Selon l'UNICEF, la moitié a moins de 6 ans et il faut vite les rapatrier, assure le psychiatre Boris Cyrulnik.
Ces enfants-là, leur cerveau est mal structuré, ils n'apprennent pas à contrôler leurs pulsions et ça fait des adolescents qui ne savent pas contrôler leurs pulsions. Très violents, très brutaux, les djihadistes les récupèrent sans difficulté.
Au total, 35 enfants français ont été rapatriés de Syrie depuis 2019. Des orphelins ou bien ceux dont leurs mères ont accepté de se séparer. L'exécutif considère en effet que les adultes doivent être jugés sur place. Une grave erreur, estime Boris Cyrulnik.
Il faut recueillir les enfants et leur mère qui leur sert de base de sécurité. Si on les accueille en France seuls, sans leur mère, eh bien, ils deviendront des bombes en France.
Le psychiatre assure qu'ils grandiront forcément en haïssant le pays qui les a séparés de leur mère. Il n'existe pas de politique européenne globale sur le sujet. L'Allemagne, la Belgique et la Finlande, par exemple, ont déjà rapatrié des mères djihadistes avec leurs enfants.
Novak Djokovic s'est envolé pour Dubaï. Le numéro 1 du tennis mondial a finalement été expulsé à quelques heures du coup d'envoi de l'Open d'Australie. La justice australienne a définitivement annulé son visa ce matin. Il comptait briguer une 10e victoire à Melbourne et un 21e titre du Grand Chelem. Une absence dont pourraient profiter Rafael Nadal, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas. On y revient dans le journal des sports à 19h. Mais d'abord, des nouvelles du ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Temps contrasté sur l'Hexagone demain, Jean-Michel Golinski.
Les conditions anticycloniques se maintiennent ce lundi avec leur lot de brouillards matinaux très répandus et souvent givrants sur la diagonale sud-ouest-nord-est où les températures vont descendre entre moins 2 et moins 4 degrés, alors qu'ailleurs les gelées seront insignifiantes. En journée, le soleil va facilement se dégager des Pyrénées à la Méditerranée et des Alpes à la Corse. Et l'après-midi, des trouées vont se développer près de la Manche, alors que partout ailleurs, la journée sera invariablement grise, avec l'après-midi 3 à 6 degrés prévus du Grand Est à Rhône-Alpes et du Centre à la Bourgogne, 6 à 8 sur le Midi-Pyrénées et au nord de la Seine, 8 à 11 près de l'océan et 11 à 15 vers la Méditerranée.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.